à tous. Liliane sur Radio Anciel pour l'émission Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle de Véronique Réaud. Véronique Réaud, elle écrit beaucoup sur les chats. Eh bien, c'est une bénévole aussi de la radio. C'est elle qui fait l'émission A Cup of Tea. Le Noël végétarien de Grisou. Anaïs et Adrien étaient conscients d'avoir un enfant exceptionnel. Comme tous les parents, me direz-vous. Non, tous les parents, la plupart d'entre eux en tout cas, sont persuadés d'avoir des enfants exceptionnels. Nuance. Mais en ce qui concernait le petit Elliot, la chose était avérée, vérifiée, évidente pour tous ceux qui l'avaient approché. Ne serait-ce que quelques instants. Sur le plan intellectuel, Elliot était sans aucun doute ce qu'il est convenu d'appeler un surdoué. À 3 ans, le petit garçon s'exprimait déjà avec une clarté de langage et un vocabulaire que beaucoup d'adultes auraient pu lui envier. Le jour de ses 4 ans, ses parents s'étaient aperçus, avec stupéfaction, qu'il lisait couramment et commençait à écrire, sans arriver à comprendre quand et comment leur fils avait acquis ses connaissances. Âgé aujourd'hui de 5 ans, il jouait également du piano. Plus que correctement, et sans avoir appris. À 4 ans et demi, Elliot avait décidé de devenir végétarien. Un jour, il s'était enquis, gravement, du lien qui existait entre le steak haché qu'il avait dans son assiette et les vaches qu'il voyait brouter dans les prés lorsqu'il passait ses vacances en Normandie, chez ses grands-parents. Adrien, interpellé directement, avait répondu à Elliot : « Maman va t'expliquer ». Et il avait fait de son mieux pour ne pas parler de la viande. C'est Anaïs qui s'en était chargée. L'enfant avait écouté sa mère avec attention, puis il avait regardé son assiette. Donc, les animaux qui sont dans les prés, les vaches et les moutons de grand-père, et ceux que l'on mange, ce sont les mêmes. Mais dans notre assiette, ils sont morts. Anaïs avait dû admettre que c'était le cas, en effet. Et donc, avait poursuivi Elliot, pour les manger, on les tue. Pour éviter de répondre, Anaïs avait hoché la tête sans oser regarder Elliot. « Et qu'est-ce que tu dirais ?» avait poursuivi Elliot sur un ton à la fois triste et sévère, « si on venait me prendre pour me tuer et me manger ?» Anaïs s'écria que cela n'avait rien à voir. « Ah non ?» avait ironisé Elliot. « J'aimerais bien que tu m'expliques la différence. Hier, tu m'as donné une côtelette d'agneau. Je sais que l'agneau, c'est le bébé de la brebis. « Tu penses qu'elle n'a pas pleuré, la brebis, quand on est venu lui prendre son bébé pour le tuer ?»« Mais voyons, Elliot, la brebis ne sait pas que l'on prend son agneau pour le tuer. »« Je ne suis pas de ton avis, » avait rétorqué Elliot. « Je ne suis pas de ton avis » était dans sa bouche une phrase de plus en plus fréquente. Il le disait sans agressivité, mais avec une telle assurance que les adultes finissaient par se poser des questions sur le leur d'avis. Mais Elliot, l'être humain a besoin de manger de la viande pour être en bonne santé. Je n'en suis pas sûre du tout. De toute façon, s'il faut tuer des animaux pour être en bonne santé, je préfère être malade. Elliot, voyons, sois raisonnable. Tu as besoin de protéines pour grandir. Mais Elliot resta muet et repoussa son assiette. Anaïs savait qu'il était inutile d'insister. Et si je te donne du poisson ? Avait alors demandé Anaïs, pleine d'espoir. « Est-ce que tu le mangeras ?» Elliot avait considéré la question un moment, puis demandé à sa mère. « Les poissons, c'est des animaux ?» Anaïs avait dû reconnaître que c'était effectivement le cas. Alors avait tranché Elliot d'un ton catégorique « Je n'en mangerai pas, je ne veux pas manger d'animaux !» Désespéré et imaginant déjà son fils à moitié mort d'inanition, Anaïs lui avait demandé ce qu'il accepterait de manger. « Ce que tu veux, » avait répondu Elliot conciliant, « à condition que ce ne soit pas des animaux. » Anaïs était donc repartie à la cuisine avec le steak intact pour le remplacer par une assiette de pâte à la sauce tomate avec de la salade et un œuf, en espérant que l'œuf ne poserait pas un nouveau problème. Elle avait tout de même fait un détour par le jardin pour informer Adrien de la situation et lui dire par la même occasion sa façon de penser sur sa lamentable démission dans son rôle de père. Adrien était habitué aux excès de langage de sa moitié lorsqu'elle était en état de stress. Il avait simplement essayé d'argumenter qu'il connaissait l'état de végétarien en pleine forme et que cela n'était tout de même pas dramatique, mais il avait vite compris que le moment était mal choisi pour discuter diététique. Elliot avait mangé ses pâtes et la salade sans faire d'histoire. Il avait eu un moment d'hésitation devant l'œuf, mais Anaïs lui avait certifié que ce n'était pas un animal. « Et les poussins ?» avait demandé Elliot méfiant. « D'où est-ce qu'ils viennent ?»« Ce ne sont pas les mêmes œufs, » lui avait répondu sèchement Anaïs. Le repas s'était donc terminé sans autre crise. Il faut dire qu'Elliot avait toujours adoré les animaux, vivants, et qu'il avait un don tout à fait exceptionnel pour communiquer avec eux. Lorsqu'il était chez son grand-père paternel, les vaches et les moutons venaient spontanément vers lui, et le petit bonhomme les caressait et les cajolait sans aucune crainte. De même, le chien de la ferme, qui d'ailleurs n'était pas méchant, mais très impressionnant par sa taille et sa grosse voix, arrivait en remuant la queue, puis se mettait sur le dos pour que l'enfant puisse lui gratouiller le ventre. Lorsqu'il était bébé, un petit canard boiteux, pourchassé par ses congénères, avait même pris l'habitude de se réfugier sous son hamac. Le canard se nommait Prosper. Prosper et Elliot étaient restés de grands amis jusqu'à ce que le canard termine sa vie prématurément dans le ventre d'un renard. Le drame avait été soigneusement caché à Elliot, à qui on avait dit que Prosper était parti en vacances. Le rêve d'Elliot était d'avoir un animal à lui. Ses parents auraient aimé satisfaire ce rêve, mais ils habitaient un appartement dans le centre-ville de Chartres. Bien que, situé au rez-de-chaussée, l'appartement bénéficiât d'un jardinet privatif, adopter une vache, le premier souhait de leur fils, ou même un mouton, choix numéro 2, ou un gros chien, comme celui de papy, leur semblait difficile. Elliot, cependant, ne baissait pas la garde. Il avait déclaré que finalement, il se contenterait d'un chat, mais que ses concessions s'arrêteraient là et qu'il comptait bien avoir le chat pour son prochain Noël. Il ne voulait rien d'autre, et qu'on n'aille pas lui raconter que le Père Noël n'avait pas trouvé de chat, parce que de toute façon, il ne croyait pas au Père Noël. Cette discussion assez surprenante avait eu lieu un soir où Anaïs et Adrien recevaient Marie-Claude, amie du couple et marraine d'Eliott. Marie-Claude était une femme charmante, très fortunée, très généreuse et très snob. Elle était extrêmement fière d'être la marraine d'un bambin aussi extraordinaire. Elle aimait aussi beaucoup les animaux, et les chats en particulier. Elle en possédait 6, 2 persans, un bengale, un maine coon, un sphinx et un ragdoll, tous bardés de pédigrés impressionnants et décorés des médailles des plus prestigieux concours félins. Elle travaillait dans le domaine de la mode, voyageait beaucoup et toujours avec ses chats qu'elle n'aurait laissés pour rien au monde. Elle se montra donc enchantée par le souhait de son filleul et l'assura qu'il aurait son chat pour Noël. Elle donnerait à ses parents une liste des meilleures chatteries. Ils pourraient choisir celui qu'ils voudraient. Connaissant les moyens modestes du jeune couple, elle leur remit avec la liste une enveloppe de billets qu'Adrien, après le départ de Marie-Claude, compta 5 fois n'en croyant pas ses yeux. À son avis, son fils allait pouvoir acheter une chatterie entière. Elliot était aux anges. Ses parents un peu moins. Les visites chez le vétérinaire, les poils sur le canapé neuf, la litière à changer, la sécurité à assurer, la garde pendant les vacances, à confier à Dieu savait qui. À moins bien sûr qu'Elliot n'exigeât que le chat ne les suive partout pour faire comme marraine. Mais Anaïs et Adrien avaient le cœur tendre et Elliot était si heureux et si excité qu'ils n'eurent pas le courage de s'opposer au projet. Il fut même entendu qu'eux-mêmes lui offriraient tout ce dont le chat aurait besoin pour se sentir accueilli. Un panier, un coussin confortable pour garnir le panier, une cage de transport, une jolie gamelle pour sa nourriture, une autre pour la boisson, une jardinière remplie d'herbe à chat, des jouets, la liste était longue. Et Elliot trouvait chaque jour de quoi l'allonger. Elliot se plongea dans la lecture des volumes, il profita même de la visite de son cousin Tom, un peu plus âgé que lui et qu'il adorait, pour se procurer une documentation additionnelle. À la demande d'Elliot, Tom, qui maîtrisait parfaitement Internet, se lança dans des recherches approfondies. L'histoire du Félix Catus depuis ses origines, psychologie, maladie du chat, le chat dans la littérature, articles sur les chats abandonnés, sur les sociétés de protection féline, Elliot était insatiable. mais Elliot était sans doute devenu l'hélurophile le plus savant de la planète et certainement le plus heureux. La suite du séjour de Tom fut tout aussi joyeuse. Les deux enfants s'entendaient comme larrons en foire et, ravis de se retrouver, profitèrent de leur complicité pour multiplier les bêtises. Car, que l'on ne s'y trompe pas, Elliot n'était pas un enfant sage, ce qui, dans une certaine mesure, rassurait d'ailleurs ses parents. Il était turbulent, joyeux, bavard, rieur, bref, il était heureusement et malgré tout un enfant. On n'était plus qu'à quelques semaines de Noël. Anaïs et Adrien proposèrent à Elliot de commencer à faire le tour des châteries recommandées par sa marraine. En fait, tous les week-ends de la famille furent consacrés aux visites d'élevage à partir de la fin novembre. Et encore, Marie-Claude avait été relativement raisonnable en ne retenant que des adresses qui limitaient les trajets à 4 heures de route. Cette quête étrange, originale, chronophage et pas très écologique, car la consommation de carburant de la famille atteignait à cette période des sommets jamais atteints, permit tout de même à Elliot et à ses parents de découvrir des villages qu'ils n'auraient jamais eu autrement ni l'idée ni l'opportunité de connaître. À l'occasion de la visite d'un élevage de Maine Coon situé dans l'Orne, Elliot, qui ne perdait pas le nord, se débrouilla pour conduire la famille à Ticheville, un petit bourg tout proche où il avait, par magie, repéré un restaurant végétarien répondant au nom prometteur de « La Maison du Vert ». Restaurant excellent de la vie des trois aventuriers qui se promirent d'y retourner au beau jour. Grâce à une châterie spécialisée dans les Bengales, à Saint-Cyr-du-Gault, près de Blois, ils découvrirent le château des Marronniers où le champion de tennis Yannick Noah avait un temps habité. Elliot, passionné de tennis, fut très impressionné. Grâce aux chartreux, les chats, de Molévrier-Sainte-Gertrude, ils découvrirent les ruines splendides de l'abbaye de Saint-Vendry où un bénédictin, attendri par l'air innocent et les yeux bleus azur d'Elliot, lui offrit un pot de miel maison. À Glanville, dans le Calvados, où le trio familial traquait les persans, Elliot régala ses parents d'une leçon d'histoire sur le village, leur apprenant sans reprendre haleine que le seigneur de Glanville avait participé à la bataille d'Hastings, que la reine Élisabeth d'Angleterre s'y était rendue à plusieurs reprises pour y visiter Théhara. Anaïs et Adrien en conclurent que les quelques jours passés avec le cousin Tom avaient permis à leur fils de progresser à pas de géant dans l'usage du Wikipédia. Elliot semblait enchanté de ses visites, prenait des notes, des photos avec le petit appareil qu'il avait reçu pour son anniversaire. Il s'amusait comme un fou, mais il ne se décidait pas. Ses parents lui rappelèrent que l'on était déjà à la mi-décembre. S'il souhaitait toujours avoir son chat pour Noël, il serait peut-être temps qu'il finalise son choix. Souriant, le petit bonhomme leur répondit qu'il restait juste une visite à faire. Anaïs et Adrien, persuadés d'avoir épuisé la liste de Marie-Claude, se regardèrent, interloqués et vaguement inquiets. Sur un ton à la fois mystérieux et taquin, Elliot leur recommanda de ne pas se faire de bile. Sûr et certain, le chat serait avec eux le 24 décembre. Adrien fit remarquer à son fils que toutes les châteries qu'ils avaient visitées étaient éloignées de Chartres et qu'il était hors de question, c'était compris, qu'il fasse 300 km le jour du réveillon, alors que ses grands-parents maternels venaient de Nantes tout exprès. Elliot n'oubliait pas, n'est-ce pas, qu'il devait préparer un réveillon végétarien pour 10 personnes. Il était bien conscient que tout le monde avait accepté d'adopter ce régime à l'occasion des réunions de famille, afin de simplifier un peu l'intendance. Mais préparer un dîner de fête végétarien, c'était un sacré boulot. Il ne fallait tout de même pas exagérer. Et là, Elliot commençait à dépasser les bornes. Elliot assura que cette dernière visite ne leur prendrait qu'une heure tout au plus et qu'il aiderait pour éplucher les légumes. Adrien soupira, Anaïs résignée haussa les épaules. Le 24 décembre tombait un samedi. Dès 8 heures du matin, Elliot fut sur le pied de guerre. Il tira ses parents du lit, il avait même préparé le petit déjeuner. Il y avait bien un peu de lait renversé sur la table, le café ressemblait à un jus de chaussette et les tartines à du charbon, mais il y avait visiblement mis de la bonne volonté et ni Adrien ni Anaïs n'osèrent lui faire de remontrance. À 9h30, la famille était prête à partir pour une destination connue du seul Elliot. Afin de garder cette dernière expédition, un caractère mystérieux qui visiblement le faisait jubiler, il refusa d'indiquer une adresse pour l'entrée dans le GPS. Avec le sérieux d'un copilote professionnel, il guida son père et un quart d'heure après, ils avaient atteint leur but. Ils se retrouvèrent à une dizaine de kilomètres de Chartres, dans le village de Saint-Aubin-des-Bois. Le quartier pavillonnaire était un peu déprimant. Elliot fit signe à son père d'entrer dans la cour d'une maison qui ressemblait à toutes les autres. Au-dessus de la grille, un calicot annonçait 24 décembre, Noël des animaux, portes ouvertes toute la journée. Tout devenait clair. Anaïs et Adrien se regardèrent abasourdis. Depuis un mois, Elliot leur avait fait faire des centaines de kilomètres, visiter une demi-douzaine de châteries de luxe, pour finalement les emmener adopter un animal dans un refuge. Décidément, ce gamin était ahurissant. Une dame souriante et chaleureuse, qui semblait les attendre, les fit entrer dans une grande pièce dont la majeure partie était grillagée et où une bonne vingtaine de chats faisaient leur toilette, prenaient leur repas, dormaient. Certains n'étaient que des chatons. Anaïs s'approcha d'une adorable petite chatte toute blanche. « Tu as vu, dit-elle à son fils, comme elle est mignonne, et quels beaux yeux verts elle a ?» Adrien, de son côté, s'amusait des pitreries d'un chaton roux particulièrement déluré et invita son fils à le rejoindre. Mais Elliot ne les écoutait pas. Il s'était approché de la responsable du refuge et lui avait murmuré quelques mots à l'oreille. Celle-ci l'avait pris par l'épaule et conduit à l'extrémité de la grande pièce. Dans un coin, le dos tourné aux visiteurs, un vieux chat tigré, au pelage clairsemé, était assis. Elliot avait demandé à la responsable de le conduire vers le chat le plus ancien du refuge. C'était Grisou. Grisou avait vécu une dizaine d'années heureuses auprès d'une maîtresse aimante et attentionnée. Mais un jour, on avait emmené sa maîtresse à l'hôpital. Pendant quelques semaines, une voisine était passée le nourrir deux fois par jour. Et puis un matin du mois de février, des gens qu'il ne connaissait pas avaient vidé la maison de tous ses meubles et sans comprendre ce qui lui était arrivé, il s'était retrouvé à la rue. Il avait galéré pour essayer de se nourrir, fouillant dans les poubelles. Un soir, il avait repéré un endroit où une humaine distribuait de la nourriture. Il y avait déjà beaucoup de chats sur place, mais ses compagnons de misère lui avaient fait une place parmi eux. Il faisait très froid. La dame qui venait nourrir les pauvres errants avait vite compris que Grisou ne tiendrait pas le coup. Alors, elle l'avait enveloppé dans une couverture. Il ne s'était pas débattu, sans doute parce qu'il n'en avait pas la force, mais aussi parce qu'il sentait que les choses ne seraient pas pires là où on l'emmenait. Et il s'était retrouvé dans la grande pièce grillagée. Ce qui n'était pas très joyeux, mais au moins il avait chaud, il avait à manger, et de temps en temps un peu d'attention des humains qui s'occupaient du refuge. Cela faisait maintenant 3 ans qu'il était là. 3 samedis par an, le refuge faisait une opération porte ouverte. Au début, Grisou s'approchait des visiteurs pour essayer, comme les autres, d'attirer leur attention. Mais après quelques essais infructueux, il avait fini par comprendre que les humains ne s'intéressaient qu'aux chatons, ou en tout cas à des chats plus décoratifs que lui-même. Alors, il avait fini par tourner délibérément le dos et à rester prostré, le nez contre le mur lors des visites, persuadé qu'il n'avait plus rien à attendre de personne. C'était sans compter sur Elliot. Le petit garçon resta un long moment en contemplation devant le vieux chat. Grisou, sentant un regard amical posé sur lui, se retourna lentement. Il ne se croyait plus susceptible d'attirer l'attention de qui que ce fût, et pourtant, ce petit humain avait vraiment l'air d'intéressé à lui. Hésitant, il se leva et se dirigea vers Elliot avec circonspection. Elliot approcha sa main du grillage, et Grisou vint timidement frotter sa joue à la petite menotte. Puis Elliot demanda à la responsable du refuge si elle voudrait bien sortir Grisou, pour qu'il puisse le prendre dans ses bras. Ce qui lui fut accordé de grand cœur. Elliot serra Grisou contre lui comme un trésor. Tout à coup, il prit un air inquiet et dit à ses parents qui s'étaient rapprochés. « Il grogne, est-ce qu'il va me mordre ?» Anaïs, Adrien et les responsables du refuge le rassurèrent immédiatement. « Non, il n'allait pas le mordre. Non, il ne grognait pas. Il ronronnait comme tous les chats lorsqu'ils sont contents. » Ah, fit Elliot tranquillisé et ravi. Alors, il veut bien qu'on l'adopte ? La responsable du refuge assura que rien ne pourrait lui faire plus plaisir. Anaïs et Adrien étaient perplexes, mais ils n'osaient rien dire. Elliot leva alors la tête vers ses parents. « Vous donnez les sous à la dame ?» Anaïs et Adrien se regardèrent. Ils avaient bien sûr l'intention de faire un don au refuge, mais... « Mais quoi ?» fit Elliot avec impatience. « Vous avez bien les sous que Marine vous a donnés. Vous ne les avez pas perdus ?» Ses parents le rassurèrent sur ce point. Ils essayèrent avec tact, pendant que la responsable du refuge était partie, de chercher une cage à leur prêter pour le transport, d'expliquer à Elliot que sa marraine leur avait laissé beaucoup d'argent pour acheter un chat de race. Et Grisou, sûrement très gentil, ne pouvait vraiment pas être considéré comme un chat de race. « Je ne comprends pas, » leur rétorqua Elliot, fronçant les sourcils. « Marraine vous a donné des sous pour m'acheter un chat. Elle a dit que je choisisse celui que je voudrais. C'est Grisou que je veux. Il faut donner les sous à la dame. » La dame revenait justement avec la cage. Anaïs et Adrien sentirent que la situation risquait de tourner au drame. Ils ne voyaient pas d'autre solution que de s'exécuter. Ils remirent donc l'enveloppe qui devait contenir de quoi assurer la subsistance et les soins de tous les chats du refuge pendant au moins un an. D'abord sidérée, la responsable se confondit en remerciements, puis fondit en larmes. Elliot lui demanda si elle était triste parce qu'il emmenait Grisou. Ce à quoi elle répondit que non, bien au contraire, elle était très heureuse, et quelquefois on pleure aussi quand on est très heureux. « Ah ?» fit Elliot dubitatif. Anaïs et Adrien remercièrent la dame, installèrent Elliot à l'arrière de la voiture, Grisou à côté de lui dans sa cage de transport. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il faudrait s'arrêter pour acheter des croquettes et un sac de litière et finir de préparer le réveillon. « Qu'est-ce qu'on va manger ?» demanda Elliot, tout en continuant à caresser Grisou à travers les barreaux de la cage. Sa mère lui communiqua le menu. « Crème de champignons. »« Quels champignons ?» interrompit Elliot. « Des cèpes, » répondit sa mère un peu agacée avant de poursuivre. « Vol au vent à la fondue de poireaux, rôti de châtaigne en croûte, terrine de roquefort aux fruits secs. »« Monsieur approuve ?» questionna Adrien avec une ironie qu'Elliot ne daigna pas remarquer. « Cool. Et la bûche ?» Bûche façon forêt noire. Super. Qu'est-ce que Grisou va aimer ? Anaïs répondit que Grisou aurait des croquettes ou de la pâté en boîte et expliqua à son fils que les chats ne mangeaient pas la même nourriture que les humains. Et pourquoi pas ? S'indigna Elliot. Parce que ce n'est pas bon pour eux, expliqua Anaïs. Cela peut les rendre malades. Ah bon ? Admit Elliot, un peu déçu mais philosophe. Et il resta silencieux pendant le reste du court voyage. Quant à ses parents, ils restèrent également silencieux. Ils se demandaient chacun de leur côté, avec un peu d'appréhension, quelle serait la réaction de Marie-Claude quand elle apprendrait que son filleul avait insisté pour payer un vieux matou de gouttière au prix d'un chat de luxe. Adrien décida de se jeter à l'eau. « Tu sais, Elliot, ma reine va sûrement être très surprise quand elle va voir Grisou. Qu'est-ce que tu vas lui répondre quand elle te demandera pourquoi tu as pris un vieux chat de gouttière alors qu'elle voulait t'offrir un chaton magnifique ? » Simplement et gravement, Elliot répondit « Parce que les chatons magnifiques n'ont pas besoin de moi. Grisou, si. » Et Anaïs et Adrien se dirent qu'ils n'avaient peut-être pas un enfant sage, mais qu'ils avaient à coup sûr un enfant sage avec majuscule. Thank you.